c'est quand même... Je j'en reviens pas, là. J'en reviens pas. Depuis 3 ans, la proportion des jeunes de moins de 25 ans qui prennent des médicaments liés au déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité a augmenté 2 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Et là, c'est rendu là qu'on a un jeune sur 20, un jeune adulte de 18 à 25 ans sur 20 au Québec qui a recours à la médication. C'est presque... c'est presque 3 fois plus que dans le reste du pays. Fait que là, on a un problème. Puis là, il y avait une commission parlementaire cette semaine à Québec qui se penchait là-dessus. Et il y a une chercheure qui nous a révélé, donc, qu'au Québec, là, ce sont les plus jeunes élèves qui sont ceux qui reçoivent le plus souvent un diagnostic de TDAH. Et donc, qui sont le plus souvent médicamentés. On va aller rejoindre Joël Monzé, donc qui est docteur en neurosciences. Bonjour, M. Monzé.
Bonjour.
Est-ce que ça vous surprend? Parce que là, la chercheure Marie-Christine Brault dit, dans le fond, on confond le manque de maturité avec un TDAH.
Oui. Ça fait des années, en fait, qu'on le sait, malheureusement. On sait, en fait, que 60% des enfants qui sont médicamentés sont nés en juillet, en août et en septembre. Autrement dit, comme la date de passage d'une classe à l'autre, c'est le 1er octobre, à ce moment-là, ce sont les plus jeunes de la classe qui sont, en fait, suspectés beaucoup plus facilement d'avoir un TDAH. On a la même chose aux États-Unis. Par contre, en Colombie-Britannique, ce sont ceux qui sont nés en novembre et en décembre qui représentent 60% des enfants médicamentés parce que, eux, leur date butoir, c'est le 1er janvier. Donc là aussi, on voit dans les 3 cas que c'est un problème d'immaturité et qui va se résorber pendant l'année, mais malheureusement, comme les attentes sont très fortes, aussi bien sur les enseignants qui veulent que leurs élèves performent que sur l'enfant qui doit performer, eh bien, à un moment donné, l'enfant finit par avoir une charge mentale tellement forte qu'on le confond ça avec de l'hyperactivité ou un déficit d'attention alors que le problème est bien ailleurs.
OK, mais si on le sait, pourquoi on ne s'ajuste pas, là? Je ne comprends pas, là.
Mais parce que beaucoup de gens pensent qu'une médication, c'est comme une simple paire de lunettes et on oublie que pour avoir justement une paire de lunettes, on passe un paquet d'examens biologiques où on fait toute une série de mesures. Et souvent, quand l'enfant a des difficultés à l'école, quand on suspecte un TDAH, que la famille est en difficulté, quand ils vont voir le médecin, ben le médecin, il voit une famille en détresse et son outil de travail au médecin, c'est de prescrire un médicament. Et comme c'est un accès beaucoup plus facile à cause de l'assurance médicament, parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller faire une psychothérapie ou d'aller rencontrer un psychoéducateur, à ce moment-là, ben le réflexe, en fait, de tomber vers la médication se fait beaucoup plus facilement.
OK. Fait que c'est quoi la solution?
Mais la solution, ce serait de regarder que nous avons des enfants et que nos enfants sont soumis à un paquet de situations dans lesquelles ils ont besoin qu'on les accompagne autrement que ce que nous faisons pour l'instant. C'est comme si on est en train de foncer avec notre voiture vers un mur. On nous avertit qu'il y a un mur, mais on ne décide pas d'freiner et de changer de direction pour éviter de se fracasser. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance aujourd'hui. Vous parliez de 5, un enfant sur 20 à la fin de l'adolescence, mais c'est 14,5% des jeunes au primaire, on monte à 15% autour du passage du secondaire, donc on a beaucoup trop d'enfants qui sont en difficulté.
Vous dites 15% des enfants du primaire?
En fin de primaire, à 11 ans, on est aux alentours de 15%. Ce sont des chiffres qui sont les chiffres qui ont été donnés par l'INSPQ hier, lors de la commission. Et c'était très proche, en fait, des chiffres qu'on avait annoncés avec le groupe de médecins pédiatres avec lequel j'étais sorti dans la presse en janvier dernier, où on parlait de 14,5%. Donc oui, on voit, en fait, qu'il y a énormément de jeunes, et c'est 3-4 fois plus que ce qu'on a ailleurs dans le Canada ou par la plupart des autres pays.
Là, on parle d'enfants qui sont diagnostiqués ou on parle d'enfants qui sont diagnostiqués et médicamentés?
On parle d'enfants qui sont médicamentés. Quand on parle d'enfants diagnostiqués, ça, on parle de 23% au niveau du Québec. Et si on enlève Montréal, on monte à 30 à 33% selon les régions. Donc, en fait, le diagnostic peut se donner sans nécessairement qu'il y ait une prescription d'un psychotrope qui va s'accompagner pour accompagner l'enfant.
Et au secondaire, vous me dites, c'est combien?
Au début du secondaire, on est aux alentours de 15%, et puis ça va diminuer petit à petit, puis ça va remonter, en fait, pour les jeunes qui vont à l'université.
Hey, on a un problème, là, Dr Monzé, ça n'a pas de bon sens. Là. Est-ce que c'est la gratuité des médicaments qui est en cause ici? Parce que, je le rappelle, là, le Québec est la seule province qui a une assurance médicaments aussi étendue que celle que nous avons. Là, à toute fin pratique, là, les médicaments sont gratuits. Les médicaments essentiels, en tout cas, sont gratuits. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça la cause première de cette espèce de surmédicamentation?
Mais c'est pas juste ça. Je pense qu'on a banalisé beaucoup trop facilement un certain nombre de symptômes. Vous allez sur Internet, vous écoutez quelques experts à la télévision et vous avez des symptômes dans lesquels vous et moi, on pourrait se retrouver sur plusieurs aspects. Et quand on ne fait pas une analyse globale de l'ensemble des comportements que l'on a, par exemple, on sait que les écrans vont avoir une tendance à pousser les enfants à avoir plus de déficit d'attention ou de l'hyperactivité. On sait, par exemple, qu'un enfant, à partir de 9 minutes de télévision le matin, on perd sur toute sa concentration durant la journée. Il va avoir de la misère à suivre à l'école. Donc, s'il est trop souvent sur la télévision, sur des jeux vidéo, sur un téléphone cellulaire, eh bien, à ce moment-là, c'est une problématique de mauvais usage d'un écran et pas une problématique neurologique au sens où on l'entend. On sait que les colorants vont avoir un effet, malheureusement, qui peuvent amener beaucoup de tension, beaucoup d'hyperactivité où l'enfant va partir de la lune. On sait que des symptômes de prédiabète vont y ressembler. Donc, il y a un paquet de choses qu'on devrait analyser et qui sont malheureusement rarement analysés avant qu'on pose le diagnostic et qu'on propose la médication.
OK, mais le diagnostic, là, ça prend un médecin pour le poser, n'est-ce
oui.
pas? C'est bon. Alors, et c'est le médecin qui prescrit donc le médicament? Bon, mais le médecin, comment nos médecins peuvent-ils à ce point confondre le déficit d'attention avec le manque de maturité de l'enfant parce qu'il est tout simplement trop jeune?
Mais souvent parce que la famille, quand elle arrive voir le médecin, la famille est en détresse parce qu'il y a une grosse pression de réussite sur l'enfant ou sur eux-mêmes. Et puis, à ce moment-là, l'évaluation des symptômes ne va peut-être pas nécessairement être faite de manière suffisamment adéquate. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent dans des tests neuropsychologiques. Or, ce sont des tests en neuropsychologie qui ont été faits souvent en anglais et qui ont été traduits. Mais on s'entend qu'il y a des enjeux culturels qui vont être faits là-dedans et il y a une compréhension de certains mots qui vont être aussi différents d'une langue à l'autre. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas envisagées par beaucoup de neuropsychologues.
Donc, le corollaire à ces conclusions, c'est qu'assez souvent, nos enfants sont diagnostiqués avec un déficit d'attention alors qu'ils n'ont pas de déficit d'attention et que si on était un petit peu patient puis on attendait encore quelques mois pour que leur cerveau se développe davantage, on réaliserait que tout est normal et qu'il n'y en a pas de problème.
Oui. Et donc, des enfants qu'on fait redoubler, éventuellement, même déjà au niveau de la maternelle, on va voir des changements majeurs dans le comportement de l'enfant. On n'évolue pas tous de la même manière. Je veux dire, pour un an dans la vie d'un enfant, et encore plus si c'est 3 mois, c'est peut-être l'équivalent de 10 ans pour vous. Vous n'êtes plus le même homme aujourd'hui que vous l'étiez il y a 10 ans et que vous le serez peut-être dans 10 ans, aussi.
Mais vous avez absolument raison. Là, tous les parents là, qui ont eu des enfants savent très bien... à quel point ils changent très, très vite, surtout à cet âge-là, là, je dirais l'âge du primaire, même évidemment au secondaire, des fois, c'est une croissance, pas juste physique, là, qui est accélérée, mais tout change en l'espace de quelques mois. Là. C'est mm-hmm. pratiquement plus le même enfant, là, parfois. Là.
Oui, et c'est ce dont on malheureusement ne tient pas compte quand on fait simplement une évaluation de comportement et qu'on présume qu'il y a un trouble neurologique en arrière.
OK, là, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà été poussé à faire évaluer votre enfant pour un TDAH? Je m'adresse aux auditeurs au sens large, M. Monzé, juste okay. un instant. J'avoue que ça pouvait porter à confusion. Dites-moi, est-ce que c'est arrivé, là, vous les auditeurs, est-ce que c'est déjà arrivé de vous faire pousser dans le dos, mettons, par le personnel de l'école, on va dire au sens large. Bon, hein? À faire évaluer votre enfant, à vous faire dire « je suis certain qu'il y a un TDAH, va voir le médecin, tu vas voir, il va te le confirmer », pour réaliser par la suite que finalement c'était une erreur, il n'y en avait pas de problème de TDAH. Est-ce que dans le fond, vous avez déjà reçu peut-être un faux diagnostic ou est-ce que vous avez déjà été poussé même à médicamenter votre enfant? Vous pourrez nous appeler au 790-9850 ou encore par texto 98-985. Si on disait, Dr Monzé, avec les faits, les connaissances que nous avons maintenant, là, est-ce qu'on serait capable d'évaluer combien de faux diagnostics on a? Mettons, sur 100 enfants, là, combien de faux diagnostics on a au Québec?
Mais j'ai déjà entendu Marie-Claude Gay, qui est une neuropsychologue qui travaille à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui disait qu'elle enlevait 2 diagnostics sur 3.
Mais voyons donc.
Parce qu'elle prend plus de temps, elle analyse plus la situation. Je vous dirais que la majorité de ma clientèle en psychothérapie, c'est le même type de situation où je prends plus le temps, en fait, de regarder l'ensemble des choses. Je travaille avec la famille et éventuellement le médecin, si le médecin embarque dans le processus de manière directe ou indirecte. Et dans beaucoup de cas, en fait, le diagnostic va être enlevé. Mais il faut outiller l'enfant. L'enfant est en difficulté, l'enfant est en détresse. Mais si on part du principe que l'enfant a un trouble neurologique, on ne peut rien y faire, mais le réflexe d'aller vers la médication est quasi automatique, alors que quand on prend le temps, qu'on outille le jeune, qu'on l'aide à développer ses outils, qu'on le responsabilise aussi, qu'on regarde avec la famille qu'est-ce qui appartient dans la dynamique familiale, éventuellement qu'on travaille avec l'école au besoin dans un plan d'intervention, on se rend compte qu'on peut agir autrement qu'avec un médicament.
Donc, si on se fie à votre pratique, puis vous ne prétendez pas que c'est scientifique, là, mais pour les fins de la discussion, prenons pour acquis que ce que vous observez, c'est le portrait de la réalité, on pourrait probablement diminuer du 2/3 le nombre d'enfants qui sont diagnostiqués avec un TDAH et qui sont dans bien des cas médicamentés.
Oui, et je pense qu'à ce moment-là, on retrouverait les normes internationales qui sont aux alentours de 5%.
Alors qu'on est à, vous disiez,
ça peut aller jusqu'à 15%, 15%. À 11, 12, 13 ans.
Voilà, exactement. OK. C'était très éclairant, Joël Monzé, docteur en neurosciences. Merci pour l'entrevue.
Avec grand plaisir.